Alors, nous sommes ici à l'hôtel de ville d'Angoulême pour interviewer Loïc Néou, qui est le directeur de la maison d'édition Ego Comics. Loïc, qu'est-ce que c'est cette maison d'édition? Elle se crée en 1993.
À l'origine, c'était la création d'une revue qui s'appelait Ego Comics. Avec quelques amis dessinateurs, on avait décidé de créer cette revue. C'est un peu à notre corps défendant que c'est devenu une maison d'édition au moment où s'est présenté le journal de Fabrice Naud. Aucun éditeur n'aurait pu envisager de publier et que du coup, j'ai décidé de publier. Moi, en fait, c'est l'orientation très, très précise de la maison d'édition vers l'autobiographie, c'est dû au fait que c'est ce que je lis en littérature et c'est ce qui m'intéresse. Donc, je lisais des choses en littérature et je me disais, mais en bande dessinée, il faudrait peut-être présenter son équivalent. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. J'étais lecteur de bande dessinée quand j'étais adolescent, puis à un moment donné, la bande dessinée a cessé de me nourrir, donc je me suis tourné vers la littérature et j'ai précisé mes goûts en allant jusque vers les autobiographies, les journaux intimes, les correspondances, ce genre de choses. Mes goûts sont à l'œuvre dans le choix de l'orientation éditoriale. À partir du moment où le récit m'intéresse, après il peut avoir une approche graphique totalement différente et effectivement on a un bout du spectre Porcellino et à l'autre bout Fabrice Naud effectivement, et là il n'y a aucun rapport entre les deux approches graphiques. Moi vraiment c'est le récit, ce qui est raconté, ce qui est dit, ce qui est transmis. C'est les auteurs qui sont en liberté hein, face à leur planche, ils font absolument ce qu'ils veulent et effectivement si le texte doit prendre plus de place que le dessin, eh bien, il n'y a aucun problème. Par exemple le journal Lapin de Lucas Mété, là, qui est le livre qu'on offre pour nos 10 ans, il y a souvent la moitié de la page qui est du texte et bon, lui-même se pose la question quand est-ce qu'on fait de la bande dessinée, quand est-ce qu'on n'en fait plus, etc. Moi j'aime qu'il y ait de la substance, hein, donc j'aime qu'il y ait à lire. Par exemple je ne comprends pas du tout les bandes dessinées muettes. Pour moi, c'est au dehors de mon champ de perception. Donc, c'est pas la peine de m'en présenter.
Quelle est l'attention qui vous intéresse dans le rapport du sexe à la narration ?
Par exemple, dans le livre qu'on a fait avec Frédéric Poincelet, c'était une sorte de ping-pong tous les deux. Je lui envoyais des récits, il les dessinait. Et puis, après, j'essayais de me dire, bon, si je lui envoie un truc encore plus carabiné, est-ce qu'il va pouvoir le dessiner ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va me dire, non, là, t'arrêtes un peu. Parce que moi, je regrettais que dans la bande dessinée, souvent, le sexe, c'était soit des fantasmes, soit quelque chose de représenté de manière outrancière. Soit des fantasmes à la Crumb, soit des bandes dessinées à destinée masturbatoire. C'est donc de la pornographie. Moi, j'aime bien la pornographie, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le sexe, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, comme n'importe quoi. Comme quand on est assis là à discuter, le sexe peut prendre sa place juste après ou juste avant. Et il n'y a pas de raison de ne pas en parler.
Dans ton propre travail, il y a quand même une distance qui est installée entre la manière dont tu écris, qui est relativement plate et crue, et puis en même temps, le dessin qui est lui-même mis un peu à distance. Est-ce que cette façon de refroidir le sexe et de le mettre à distance, c'est quelque chose qui est vraiment une ligne directrice chez toi ?
Je pense que tu parles du livre Essai de sentimentalisme, c'est ça ? Là, c'était vraiment une collaboration, moi, que j'ai beaucoup aimé avec Frédéric Poincelet. C'était, comme je l'ai dit, une sorte de... On se répondait l'un l'autre, et puis je savais qu'à un moment donné, il me disait... Est-ce que tu es capable d'aller plus loin ? Oui, je suis capable d'aller plus loin, mais là, tu vas voir, je vais te mettre en difficulté. Et effectivement, il y a cette distance qui est créée parce que le texte est effectivement volontairement presque plat. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de fioriture. Donc, ça laisse à Frédéric tout le loisir de rajouter ce qu'il veut. Et j'ai été agréablement trahi. Ce qui est bien, c'est qu'il a porté quelque chose, ça crée un autre objet, en fait, hein, que je n'avais pas prévu. Voilà.
Alors, tu es plutôt rare. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une maison d'édition, parce qu'il y a d'autres envies, d'autres travaux qui t'accaparent ?
Ah, il est clair que oui, c'est le travail de la maison d'édition, le travail d'éditeur qui fait que j'ai donc peu à peu cessé de m'exprimer comme auteur. Ouais. Le livre avec Frédéric Poincelet, en fait, c'est même pas moi qui l'ai initié, c'est Frédéric Poincelet m'a dit « J'aimerais bien que tu me donnes des pages de ton journal. » Je ne lui avais pas dit que j'écrivais un journal. Et comme j'avais une grande amitié pour lui, j'ai pas eu envie de le décevoir. Donc du coup, je me suis mis au travail, j'ai sélectionné des choses que j'avais écrites il y a quelques années et je lui ai fourni cette matière. C'est peut-être dans un concours de circonstances fera que je me remette à faire ce genre de choses. Je sais pas. Mais c'est vrai que le travail de l'éditeur a remplacé toute la partie création personnelle.
Pour revenir au sexe, les années 2000 ont quand même changé un peu la donne, c'est-à-dire que les représentations du sexe sont devenues beaucoup plus accessibles avec le net. Ça signifie qu'il faut écrire différemment cette matière ou être plus pointu ?
C'est sûr qu'on a ouvert quelques portes quand même. Je sais qu'Aurélia Horita m'a dit bon, ton livre m'a inspiré pour faire Fraise et Chocolat. Alors maintenant, les portes sont ouvertes, donc il est peut-être moins nécessaire d'en proposer On est déjà allé assez loin comme ça. Donc, et puis surtout, effectivement, la pornographie est accessible à tous à partir d'une connexion Internet. Hein. Il y a peut-être moins maintenant de choses à revendiquer par rapport à ça, puisque c'est plus centré dans les mœurs, hein. Peut-être même un peu trop. Effectivement, la pléthore d'œuvres, j'emploie le mot œuvre, mais ce n'est pas des œuvres pour moi, qui fleurissent un peu partout chez toutes les maisons d'édition, où chacun raconte son petit traumatisme, sa petite colonie de vacances, ou je sais trop quoi. Bon, ce n'est pas parce qu'on raconte quelque chose qui est vécu que c'est intéressant, et la plupart du temps ça l'est pas, donc effectivement il faut être de plus en plus pointu, âpre, il faut aller encore plus dans la matière autobiographique et plus se contenter de quelque chose de surface où chacun racontant sa petite expérience, ça n'a pas d'intérêt à mon avis.
Le travail de Jeffrey Brown, par exemple, pour parler de lui précisément, qu'est-ce qui pour toi fait le caractère pointu de cette bande dessinée, qu'est-ce qui t'amène à la publier à un moment donné?
C'était la délicatesse. Je trouve qu'il y avait une grande délicatesse dans son travail, une naïveté. C'est ça qui me vient à l'esprit quand je pense à son travail.
Et Mélodie, dans le cas de Mélodie, qui est une bande dessinée assez étonnante, dans laquelle une prostituée canadienne raconte la manière dont elle passe des faubourgs à la ville et la manière dont elle commence à danser nue pour finalement faire entrer un peu de thunes et aider son mec qui est un peu junk sur les bords. Il y a une forme de délicatesse, mais aussi de brutalité dans ce récit qui est assez frontal. Et qu'est-ce qui a fait votre choix ?
C'est Bernard Joubert, le préfacier, qui, il y a quelques années, me l'a mis dans les mains, ici, là, Angoulême, pendant le festival. Et j'ai regardé ça, j'ai dit, ben ça, il faut le publier tout de suite. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, grâce à Bernard Joubert. Et effectivement, Mélodie, donc elle était stripteaseuse. C'est vrai qu'elle a peut-être un peu fait de prostitution, mais à l'origine, c'était une stripteaseuse. Et ce qui est rigolo, c'est que, c'est la pionnière de l'autobiographie au Québec. Mais elle n'était pas auteur de BD, elle était, comme on vient de le dire, stripteaseuse. Elle vendait ses petits fascicules où elle racontait sa vie à ses clients. Et dans pas longtemps, on mettra en ligne sur le site des vidéos de l'époque où elle danse nue, où elle vend ses petits fascicules. C'est assez étonnant de voir ça. Il est sélectionné pour le prix patrimoine. Bah oui, c'est un ouvrage patrimonial, quoi, parce que ça date des années 80 et c'est à l'origine de beaucoup d'autres œuvres, je trouve.
Depuis, je crois, 2010, vous avez d'abord intégré la littérature à l'intérieur de la maison d'édition. De nouveau, je sais que c'est une expérience qui s'est faite un peu par rencontre. Comment ça s'est passé exactement ?
Ben en fait, ça faisait longtemps qu'on me disait « Mais pourquoi toi qui aimes tant la littérature, pourquoi tu ne publies pas de la littérature ?» J'ai dit, bon, il y a des éditeurs dont c'est le métier, qui font ça très bien, je n'ai pas besoin de me mettre à publier de la littérature, voilà. Sauf que j'ai eu dans les mains plusieurs textes que je trouvais très bien et... Je disais aux auteurs, si j'étais éditeur de littérature, je le ferais tout de suite. Puis quand il y a eu le livre de Lionel Tran, il y a eu le livre de Virginie Cady, Fabrice avait aussi commencé à écrire un livre. Je dis, là, ça commence à faire beaucoup. Si personne ne le fait, je vais m'y mettre. Un peu poussé par l'envie comme ça de proposer des œuvres en littérature. Et si je ne l'avais pas fait, je ne suis pas sûr que ces livres seraient sortis. Bon, donc voilà, j'ai fait mon travail à mon avis. Mais c'est comme pour la création de la maison d'édition avec la publication du journal. Je n'avais pas prévu d'être éditeur. Il y avait ce livre qui était là. Il fallait s'en occuper. Bon, voilà, j'ai pris les choses en main. Par exemple, le livre de Grégory Jarry, L'os du gigot, qui s'est fait chez Ego Comics, alors que Grégory Jarry était éditeur par ailleurs, éditeur de Flubbelub, mais ce dont il avait envie, c'était d'avoir en face de lui un éditeur. Et puis, de ne pas être son propre éditeur, mais d'avoir en face de lui un éditeur. Donc là, par exemple, on a travaillé ensemble pour donner forme à ce livre. Mais après, très souvent, je reçois le livre en intégralité, et puis je choisis au nom de le publier, et vraiment, je ne suis pas interventionniste, à part si je trouve qu'il y a quelque chose qui me gêne. Mais après, bon, je le signale à l'auteur. Soit il est d'accord avec mon avis, soit pas. Et s'il n'est pas d'accord, il ne change rien.
Est-ce que le travail d'éditeur en littérature est différent de celui que tu as pu rencontrer en tant qu'éditeur de bande dessinée ?
C'est un peu plus difficile, à mon avis. C'est plus long, parce qu'il faut lire les textes plusieurs fois. Enfin bon, moi, les livres que je publie, là, en général, je les ai lus 6 fois. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est quand même... plus difficile de publier de la littérature. Et est-ce que je suis intervenu dans les textes ? Non, pas vraiment en fait. Oui, alors je me souviens le livre de Lionel Tran, j'avais dans les mains une première version que j'avais trouvée très bien et il a voulu la retravailler. Il l'a retravaillée, à mon avis, il a enlevé certaines choses qui étaient intéressantes. Donc on est revenu à une troisième version où là il essayait de rétablir ce qui était bien dans la première. Ouais, il peut se produire des choses comme ça, ouais.
qui y a autour de toi? Est-ce que tu es vraiment tout seul?
Ben, je suis, donc je m'occupe de tout. Et il y a Lucas Mété, un auteur par ailleurs, qui m'aide, propose des maquettes, et puis s'occupe du site internet et de Facebook, etc. Voilà, donc en gros, on est deux, quoi. Voilà.
Par rapport à ça, tu dois donc trouver des stratégies pour t'en tirer. Et dernièrement, vous avez mis en place un système de print on demand qui fait partie de stratégies pour arriver à gérer cette maison d'édition avec peu d'énergie.
C'est pas peu d'énergie, c'est peu de moyens, effectivement. Et puis moi, j'étais arrivé à une conclusion qui était que la chaîne du livre telle qu'on la conçoit maintenant est obsolète et il faut penser à autre chose. Parce que publier des livres à 2000 exemplaires sans savoir à qui ça va intéresser et pour que ces livres reviennent des librairies et se faire pilonner, je trouve ça aberrant. Donc j'ai pris les choses dans l'autre sens, je me dis non, on va d'abord savoir qui ça intéresse et après on imprime. Voilà, donc ça c'est la démarche anti-gaspi de l'impression à la demande. Et fallait s'adapter aussi au milieu, puisque on sait qu'il y a plus de 5000 titres qui sortent par an, ça fait environ 400 ou 500 livres sur les tables des libraires chaque mois. C'est énorme, pour trouver sa place c'est difficile. Je sais que les rééditions sont moins prisées par les libraires, donc par exemple c'est pour ça que j'ai imprimé à la demande les Sœurs Abîme, Palace, qui étaient épuisées en librairie, pour continuer à les tenir disponibles sans se prendre un four commercial, parce qu'on sait très bien que les libraires vont en prendre très peu, quoi.
Est-ce que la question du façonnage du livre te taquine, ou est-ce que tu laisses le print on demand gérer tout à fait de manière autonome cette question ?
Non, j'ai extrêmement pensé ce passage à ce type de fabrication. C'est aussi des concours de circonstances. Je travaillais depuis 15 ans avec un imprimeur qui a fermé. Et il était Angoulême. Moi, je tiens à ce que les livres soient fabriqués tout près, parce que comme ça, en cas de problème technique, on m'appelle, j'arrive tout de suite et on résout ça ensemble, plutôt que de recevoir des tonnes de bouquins qui sont à refaire. Bon, l'aspect des livres en impression à la demande a été extrêmement pensé. La maquette a été pensée en fonction des contraintes. Le fait que ce soit pas pelliculé et un beau papier, etc. Le blanc tournant tout autour de la couverture, c'est pour éviter que le livre, l'encre parte sur le côté au niveau des pliures. J'ai cherché à faire des livres sobres mais chics. Et comme cette fabrication-là me donnait satisfaction, je l'ai appliqué pour les livres en librairie maintenant. Et ce qui me permet d'être extrêmement réactif, parce que j'imprime le nombre estimé en fonction de la mise en place et j'ai quasiment pas de stock. Si j'ai besoin d'en réimprimer 500, j'en réimprime 500 et je vais pas me retrouver avec des milliers d'exemplaires à l'entrepôt. Et en plus, l'entrepôt commence à être sacrément plein. Je publie peu de livres, 5 livres par an environ, mais là, on a quand même publié 80 titres et ça commence à représenter du volume. Hein.
Oui, d'autant que certains livres récents sont plutôt de gros volumes. Et donc ici, on vient d'avoir Histoire d'un couple, c'est un auteur coréen. Mais comment tu procèdes par rapport à ce public d'auteurs ?
Le premier manga publié, c'est L'homme sans talent. Frédéric Boilet, à l'époque que j'éditais, vivait au Japon et il m'avait envoyé des livres qu'il trouvait intéressants. Et je suis tombé sur Tsuge. Et là, j'ai dit, ce livre, il faut le faire, il faut le publier. Parce qu'à l'époque, remettons les choses dans l'ordre aussi, c'est le premier manga d'auteur publié en France. Après, ceux qui ont découlé, les éditeurs qui se sont mis à en faire, c'est suite à cette publication. Parce qu'avant Tsuge et avant L'homme sans talent qu'on a publié, il y avait que Taniguchi, qui n'est pas vraiment du manga d'auteur aussi pointu que peut l'être Tsuge. Donc Taniguchi, c'est l'équivalent de Juillard au Japon. Et donc là, de nouveau, ce qui m'intéressait, c'était de proposer quelque chose qui était innovant pour le lecteur français, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Après, il y a eu Dans la prison, et puis là, effectivement, mais il n'y a pas de stratégie, c'est au gré de mes envies, au gré des rencontres. Et là, le livre de Yeon Si-kong, Histoire d'un couple, donc ça, c'est le premier manhwa coréen qu'on traduit. C'est aussi une sorte de concours de circonstances, parce qu'il a été traduit par Lucas Mété et sa compagne Yoon Sun Park. Je les connais bien, il me l'a fait lire puisqu'il était en train de le traduire, et là, j'ai décidé il voulait le proposer à un autre éditeur, puis finalement, c'est Ego Comics qui l'a fait, parce qu'il avait sa place au catalogue, 5 titres par an, c'est à peu près tout ce que je peux faire, aussi financièrement, parce qu'évidemment, c'est, oui, des fois, on m'a dit, mais il faut de l'argent aussi pour faire ce genre de choses, à la fois... techniquement et financièrement, je m'aperçois qu'en fait, c'est mon rythme de croisière. Bon. Donc j'ai pas l'intention, ça fait 20 ans que Ego Comics existe, et en fait cette maison est restée à une taille humaine, hein, puisqu'il y a un bonhomme à sa tête, et puis ça se passe comme ça.
Et pour revenir un bref moment à l'édition électronique, est-ce que tu as expérimenté des choses du type Quickstarter qui sont légèrement différentes par rapport au print on demand, où là on va lever de l'argent et puis si l'argent est suffisant, on publie quelque chose à un certain nombre d'exemplaires?
Ouais. Non, j'ai pas essayé ça. C'est vrai que je sais que Frédéric Boilet a utilisé ce moyen pour publier un livre qu'elle a de photographie chez les Impressions Nouvelles. A priori, j'ai rien contre. Mais je préfère, dans la mesure du possible, me débrouiller tout seul. C'est aussi le rôle d'un éditeur, hein, de prendre ce genre de risque financier. Mais je ne dis pas que ça peut être pour un titre particulier, je n'utiliserai pas ce moyen. Moi, ce que j'aime bien, c'est pas savoir le prochain livre que je vais faire. Notre diffuseur, c'est Flammarion. Il faut leur annoncer 6 mois à l'avance les livres qu'on va publier. Ben, moi, je ne trouve pas ça satisfaisant. Et c'est vrai que le système de l'impression à la demande permet de raccourcir considérablement le temps de fabrication et de mise à disposition du livre. Voilà, on a l'envie, on le fait, en un mois il peut être disponible et on n'a pas besoin d'avoir autant de recul par rapport au livre qu'on doit faire.
Comment on négocie des droits avec un auteur coréen ou une maison d'édition japonaise ?
Ça peut être compliqué des fois. Souvent, c'était compliqué. Hein. Avec Tsuge et Hanawa, c'était compliqué. Pas à cause des auteurs, à cause des intermédiaires. C'est vrai que ça aussi, ça m'a un peu refroidi. Mais bon, les livres sont là, ils ont raison d'être là, ils ont des raisons d'être là. Et pour le livre coréen, ça s'est passé assez naturellement. On a pris contact avec l'éditeur, il s'était entendu. À l'origine, c'était 2 volumes. Ils avaient publié 2 volumes. Et d'ailleurs l'édition française de la vue de tous est meilleure que l'édition coréenne puisqu'ils avaient commis l'erreur d'imprimer du noir et blanc en quadrichromie, donc ça donne une espèce de flou sur le dessin qui n'est pas très joli.
Quel est le futur de ta maison d'édition en termes de titres, en termes de parution et en termes de stratégie?
Alors la stratégie, c'est quelque chose que je ne connais pas, à part effectivement une stratégie qui tient compte du marché du livre et qui a consisté à m'adapter à cette nouvelle donne en proposant des ouvrages imprimés de manière différente en numérique, comme on le disait. Voilà. Après, j'ai dans les tuyaux 2 livres, peut-être plusieurs, mais donc il y aura la suite de Purulence, le livre d'Amorina Vinclair en littérature. Il y aura un livre de Jonas Nivon. Et puis, ce que je veux, c'est être surpris. J'ai pas de stratégie en ce qui concerne le choix des ouvrages à publier. Ils arrivent comme ils arrivent. Il était question que je publie un livre d'art, un peintre photographe, qui en fait est le pionnier des photos de bondage. Il est charentais d'ailleurs. Et c'était très rigolo. Et donc, j'avais un ami auteur qui voulait écrire un livre sur lui. Bon, le problème, c'est que la collection, elle appartient au musée d'Orsay, je crois. Donc, il y a des histoires de droits. Je crois que ça ne va pas être tout à fait possible. Bon, c'est dommage, mais c'était une envie que j'avais. Je ne dis pas que je ne ferai pas tel ou tel livre. Voilà. Puisque je me suis mis à faire de la littérature alors que je pensais que j'en ferais pas, on peut envisager que je peux aussi faire des livres comme ceux de Sophie Kahl, par exemple, qui sont à la croisée de plusieurs choses.
Ok, bah alors merci, Loïc, et bon travail.
Merci.